Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Leur prix fait craquer les automobilistes. Ces voitures électriques chinoises coûtent 5 à 10 000 euros moins cher que des modèles européens. Mais vont-elles rester si attractives? Vendredi, les pays membres de l'Union européenne ont voté l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques importées de Chine.
Nous n'avons pas voulu imposer des droits de douane pour le plaisir de faire payer des droits de douane. Ce que nous voulons, c'est compenser des subventions chinoises préjudiciables.
En Chine, de nombreux constructeurs automobiles ont vu le jour encouragés par l'octroi de subventions publiques massives, des pratiques jugées déloyales par la Commission européenne qui souhaite rétablir des conditions de concurrence équitables. Mais ce vote de nouvelles taxes ne fait pas l'unanimité au sein des 27. 12 pays se sont abstenus, 5 ont voté contre, à commencer par l'Allemagne qui redoute des représailles commerciales.
Pékin dit, vous avez commencé, nous répondrons, puis il y a une réponse à cette réponse et c'est l'escalade.
La Chine, qui dénonce des pratiques protectionnistes injustes, non conformes et déraisonnables, n'a pas tardé à réagir en menaçant de frapper les intérêts européens. Les exportations de porc, de lait et d'eau-de-vie pourraient être surtaxées. Les producteurs de cognac français se disent très inquiets.
La Chine, c'est notre deuxième marché. C'est près d'un tiers de nos volumes qui sont expédiés vers ce pays depuis plus de 250 ans. Et se voir potentiellement demain appliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque, c'est potentiellement la disparition du marché. On a l'impression d'avoir été sacrifié.
Alors fallait-il prendre le risque de surtaxer les voitures électriques chinoises? Un compromis peut-il encore être trouvé? Ou la guerre commerciale entre Bruxelles et Pékin est-elle déclarée?
Trois experts pour en parler. Jean-Marc Daniel, bonsoir, économiste, bonsoir. Professeur émérite à l'ESCP Business School. Votre ouvrage, Dernière leçon d'histoire économique, nouvelle leçon d'histoire économique, vient de paraître chez Odile Jacob. Selon vous, cette taxe européenne sur les voitures chinoises est une grosse connerie?
Absolument.
Saisie par ce mot, nous vous laisserons expliciter cette grosse connerie et ses conséquences dans un instant, Jean-Marc Daniel. À côté de vous, Yves Bertoncini, consultant enseignant en affaires européennes, notamment au corps des mine Paritech. Selon vous, c'est au contraire une très bonne idée de taxer les voitures chinoises. L'Europe a raison d'envoyer ce coup de semonce. Il s'agit de montrer aux Chinois que nous sommes là et qu'il faut nous prendre au sérieux. Et Françoise Nicolas, bonsoir madame, conseillère au Centre Asie de l'IFRI. Selon vous, cette taxe va obliger les Chinois à réagir. Ils ne peuvent pas donner l'impression que l'Europe a gagné. Alors, on va démarrer ce débat avec le chiffre du jour.
35,3%, vous l'avez dit, l'Union européenne donne son feu vert pour taxer jusqu'à 35,3% les voitures électriques fabriquées en Chine. En plus des 10% des droits de douane déjà existants, par exemple, ce sera 17% pour le constructeur chinois BYD, qui est le deuxième fabricant mondial de véhicules électriques. La règle est simple, plus un constructeur bénéficie d'aide du gouvernement chinois, plus il sera taxé. Jean-Marc Daniel, ça paraît de bonne guerre, mais pas pour vous.
Ah non, pas du tout, parce qu'on oublie que les pays avec qui on commerce sont non seulement des concurrents, des producteurs, des fournisseurs, mais c'est aussi des clients. Et donc, on l'a vu avec le personnage qui parlait au nom des producteurs de cognac. Mmh. Or, je crois que dans l'histoire, c'est la première fois qu'une zone économique qui dégage autant d'excédents extérieurs que la zone euro mène une politique protectionniste. Nous dégageons en excédent extérieur sur l'ensemble du monde 250 milliards d'euros d'excédent. Et sur la Chine, notre déficit en 2022 était de 397 milliards. Il a été ramené à 290 milliards en 2023. On ne sait pas comment ça va se terminer en 2024. Nous dégageons tous les mois en excédent extérieur 25 milliards d'euros. Mmh. Et par rapport à ça, on défend du protectionnisme. Je pense, encore une fois, que c'est au-delà...
Ah bah, non, mais c'est beau, hein.
C'est la grosse connerie. Hein,
grosse connerie.
Et donc...
ça, on l'a compris.
Et donc, alors, juste en deux mots, dans le livre dont vous avez parlé,
en plus, il fait de la pub.
Oui, absolument, je suis là pour ça. C'est ancien. Je raconte une anecdote, je vais raconter très vite. Michel Chevalier, qui était professeur d'économie au 19e siècle, va voir... au Collège de France, va voir Victor Cousin, qui est un grand penseur libéral, on est sous Napoléon III, et Victor Cousin lui dit, les économistes sont pour le libre-échange, les patriotes sont pour la protection. Et Michel Chevalier lui dit, je suis aussi patriote que vous. Et je pense que le libre-échange, c'est tout aussi patriote que le protectionnisme.
Alors, Yves Bertoncini, les bras vous en tombent, visiblement. Et alors, pourquoi?
Parce que le libre-échange, le libéralisme, c'est la concurrence libre et non faussée. Et que en l'espèce,
les Chinois trichent ?
Bien sûr, puisque il y a eu non pas l'application de mesures protectionnistes du type américaine ou canadienne, 100% de droits de douane. Non, il y a eu le lancement d'une enquête annoncée par Mme von der Leyen en septembre dernier, qui a pris quasiment un an, et à l'issue de laquelle il a été constaté que plusieurs producteurs chinois avaient bénéficié de conditions de la part de leur gouvernement qui s'apparentaient à des aides d'État et ça faussait la concurrence.
Donc vous êtes pour ces taxes. Vous êtes pour ces taxes européennes maintenant.
Il s'agit de droits compensateurs, il ne faut pas se tromper de vocabulaire, il ne s'agit pas de taxes comme ça. Il s'agit, avec les entreprises concernées à proportion des avantages indus dont elles ont bénéficié, de rectifier pour remettre un niveau correct, c'est-à-dire que ça passe de 7, vous l'avez bien dit, et ça peut monter jusqu'à 35% en fonction du niveau de subvention, mais aussi de leur degré de coopération, parce que certaines entreprises ont coopéré, et ensuite, d'autres non. Et l'Union européenne a dit, nous avons donc maintenant obtenu le droit, alors grâce à l'avis assez partagé des États membres, qui étaient ni pour ni contre, bien au contraire, mais bref, la Commission a dit, maintenant, nous pouvons appliquer ces droits compensateurs jusqu'à 35%. C'est un coup de semonce, je l'ai dit, ce n'est pas le début d'une guerre. C'est simplement pour dire aux Chinois, maintenant, on vous a vu, vous allez rectifier ces pratiques, et si c'était bien le cas, eh bien, vous pourrez à nouveau entrer dans des conditions normales, parce qu'on a aussi besoin de cette contribution pour la transition écologique.
Vous allez éructer, Françoise-Nicolas va arbitrer.
Juste une remarque de précision de terme. En économie, on ne parle pas de concurrence libre et non faussée. En économie, on parle de
concurrence. C'est le traité de Rome qui parle de ça.
Oui, ça c'est du droit. En économie, on parle de concurrence pure et parfaite. Mmh. Et donc la concurrence pure et parfaite n'est pas remise en cause par la pratique des Chinois.
Françoise-Nicolas.
Oui, bah, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Moi, je suis plutôt sur la ligne de deuxième intervenant, à savoir qu'il est clair que les Chinois tripotent la concurrence. On ne laisse pas faire les choses. Il y a alors des manières relativement déguisées de soutenir les activités industrielles chinoises.
Comme quoi, par exemple ?
Facilité de financement, par exemple, pour les entreprises. Alors, ce n'est pas des subventions au sens strict du terme. On n'est pas sur des subventions telles que définies par l'OMC. Mais on a des facilités de paiement. C'est essentiellement ça. C'est des facilités de financement pour les entreprises, ce qui les met dans une position favorable par rapport aux concurrents européens. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que l'Union européenne ne peut pas laisser faire. Moi je ne suis pas du tout favorable aux protectionnistes et je pense qu'on n'est pas dans une situation de protectionnisme. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Dans certains secteurs et parfois, les Chinois sont plus compétitifs que les Européens. Et ça, il faut en prendre acte et accepter cette concurrence. Dans d'autres cas, ils sont compétitifs parce qu'on les aide à être compétitifs, parce qu'on fausse cette concurrence. Et là, il faut s'insurger, s'inscrire en faux contre ces manipulations. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et dans le cas de figure précis sur les véhicules électriques, il y a des aides d'État, alors qu'ils ne s'appellent pas nécessairement comme ça, mais il y a des interventions de la part de l'État.
C'est ça. Attendez, vous allez réagir, mais on va remonter à un temps qui fait rêver sans doute Jean-Marc Daniel, un temps où la Chine faisait office d'Eldorado pour les constructeurs automobiles français qui voulaient conquérir ce merveilleux marché. 1986, vous allez voir tout de suite de quoi on veut parler, l'AX de Citroën sur la muraille de Chine, un film démentiel signé Raymond Depardon, un film anachronique.
La nouvelle Citroën AX, portée à Dodan, roule toute seule sur la muraille de Chine. Un coup politique, cet obscur objet de consommation occidentale sur la muraille de Chine, image complètement surréaliste, mais les Chinois sont ravis. Un coup sévère porté à la concurrence, 13 constructeurs avaient déjà postulé sans succès pour cette aventure exotique. La démesure a encore frappé. En associant la pub à ce monument de culte, Citroën confirme son image. Ces gars-là persistent dans le Hollywood publicitaire. Un véritable coup double pour le constructeur et son agence.
Révolutionnaire!
Avec tous les clichés possibles.
D'autres temps.
Même, Jean-Marc Daniel. Bon, et depuis, les Chinois ont visiblement gagné la bataille de la voiture. Donc il faut bien qu'on se défende, on vous le redit quand même. Quand on vous entend, on se dit, mais on ne va pas baisser les bras.
Écoutez, par rapport à ça, d'abord, par rapport au fait qu'il y a des gens qui subventionnent et tout, les Américains sortent une liste des pays qui sous-évaluent leur monnaie pour se donner des avantages compétitifs, au détriment, effectivement, des pays avec qui ils commercent. Quelle est la zone qui est de la montrée du doigt en ce moment par les États-Unis ? C'est pas la Chine.
C'est l'euro.
C'est nous. L'euro est sous-évalué et les Américains ont raison. Et les Américains disent c'est déloyal de maintenir un taux de change aussi bas. Donc on a de leçons à donner à personne, puisque effectivement, nous aussi, on utilise des politiques économiques qui nous permettent effectivement de faire de la concurrence déloyale, faussée, tout ça.
Soit Nicolas opine.
Deuxième élément, par rapport à cette période-là, 1986, j'ai connu cette période-là, si vous vous souvenez, le grand ennemi, c'était le Japon. Le Japon allait... Vous vous souvenez, c'était l'époque où on bloquait les magnétoscopes japonais à Poitiers. C'était pas du protectionnisme. C'était de la vérification de la qualité pour protéger le consommateur. Et ça n'avait rien à voir avec du protectionnisme. D'ailleurs, on n'allait pas laisser les Japonais envahir notre marché avec leur magnétoscope. Comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé, un, dans le ridicule, deux, dans le fait que le Japon a désormais un déficit commercial comme nous. Le Japon a une économie qui a évolué et le Japon n'a pas été le monstre que l'on caricature. Dernier élément...
Rapidement.
Oui. À la même époque, on accusait effectivement les Japonais de détruire notre sidérurgie. Et l'Europe, c'est très important, c'est né sur la sidérurgie. Le Japon, maintenant, continue à être un grand producteur d'acier. En Europe, on produit pratiquement plus d'acier. La moitié de l'acier vient de Chine. Et personne ne se soucie de l'acier, parce que maintenant, on considère que, effectivement, ce n'est pas à l'Europe de produire de l'acier. Le principal producteur d'acier en Europe, c'est l'Italie. Et ce n'est ni l'Allemagne, ni la France. C'est une grande puissance industrielle. Mais ce n'est plus les puissances traditionnellement mises en avant.
Yves Bretoncini, et puis il faut aussi parler des consommateurs. Si on met des taxes, au final, c'est nous qui allons les payer, non ? Sur ces voitures, c'est plus de 35% au maximum, et même 17%. C'est nous là qu'on les paye si on achète une voiture électrique. Encore une fois, il n'y a pas des capacités suffisantes pour l'instant pour les constructeurs français de servir le marché.
Ce n'est pas moi qui le dis. Hein.
Non, mais je vous pose une question. Moi, je mets un point d'interrogation, pas comme vous.
Il y a un arbitrage à faire, mais qui renvoie, puisqu'on parle de voiture électrique, à la transition écologique et à ses coûts. Il est vrai que pour pas mal d'éléments déterminants, outils pour la transition écologique, acheter chinois est une bonne idée. Sur les panneaux solaires, d'ailleurs, c'est largement chinois, et c'est moins cher fabriqué là-bas, ils sont de bonne qualité, et on n'a pas trouvé, en tout cas, on est en train de regarder maintenant de plus près, de pratiques commerciales déloyales. Mais pour ce qui est des véhicules électriques, on vient d'en mettre en évidence certaines, et donc c'est normal de rectifier afin que la concurrence puisse être, encore une fois, peut-être pas pure et parfaite, mais en tout cas pas faussée par ces pratiques. Ce n'est qu'un coup de semonce, comme je l'ai dit. C'est simplement pour dire aux Chinois, hein, quand vous passez de part de marché de 5% à presque 15% en 18 mois, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Ça ne sera pas le seul élément de la réponse européenne. On parle de « clean industrial deal » en mauvais français, c'est-à-dire l'idée que cette transition écologique sera faite aussi avec des industries européennes. Il y aura... parmi les éléments de la réponse, peut-être, des joint ventures, des coopérations, des co-entreprises et des voitures chinoises qui seront fabriquées davantage sur le continent européen. Ça permettra de préserver notre emploi. Il y a 14 millions, je crois, d'ouvriers qui travaillent dans le secteur automobile.
17 millions.
Simplement, 16 millions. Il y aura des prix qui seront rectifiés au niveau chinois. Ce n'est pas le début d'une guerre protectionniste. C'est une façon de dire aux Européens et aux Chinois, depuis les Européens, nous vous avons à l'œil. Je vais vous dire un dernier exemple, puisque Jean-Marc Daniel parlait du Japon. Oui, dans les années 90, on a inventé le pot catalytique aussi sur les voitures. Oui. Ça, c'était une façon d'empêcher les voitures japonaises, parce qu'il n'y avait pas de pot catalytique maîtrisé au Japon, de déferler sur notre marché, comme elles avaient pu déferler sur d'autres marchés. Donc c'est un élément d'une stratégie qui est en train de se mettre en place, qui n'empêchera pas d'accéder aux véhicules électriques chinois, mais dans des conditions normales.
N'empêche cette hantise des rétorsions, Françoise Nicolas. On a vu les producteurs de cognac, on voit aussi l'angoisse des distributeurs Moët Hennessy et d'autres. Il y a une enquête faite par les Chinois sur le cognac qui leur permet de dire « Ah, on va arrêter d'importer ». Il y aura des rétorsions ?
Il y aura certainement des représailles. La Chine ne peut pas laisser faire, elle ne peut pas rester sans réagir. Mais sur la question du cognac, par exemple, si mes informations sont bonnes, ils attaquent sous l'angle du dumping. Donc ils vont lancer une enquête pour voir s'il y a du dumping de la part des producteurs de cognac. Alors là, j'avoue que j'aimerais savoir comment ils vont nous démontrer qu'il y a du dumping sur le cognac. Donc ça me paraît un petit peu osé.
D'autres secteurs ont à craindre ces rétorsions, ces représailles ?
Les produits laitiers et le porc, la production de porc aussi. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a pas que la France qui est ciblée, il y a aussi pas mal d'autres pays européens qui sont ciblés, à commencer par l'Espagne. Alors l'Espagne avait d'ailleurs fait valoir qu'elle était plutôt du côté allemand sur l'histoire des véhicules
Les Allemands qui ne veulent pas de ces taxes-là.
voilà, les Allemands se sont opposés aux taxes. Bon, ça n'a pas suffi. Ils sont tout seuls avec la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie et Malte. Hein. Donc, trois tout petits, un moyen et un gros, à savoir l'Allemagne. Mais il y en a 10 qui se sont, ou 12 qui se sont abstenus. Et moi, je dirais, qui ne dit mot qu'on sent. Donc, ceux qui s'abstiennent, finalement, ils appuient les taxes, dont l'Espagne. Donc, l'Espagne a quand même changé un petit peu de position là-dessus.
Juste sur la position de l'Espagne, quand même, le Premier ministre espagnol s'est exprimé quand il était en visite officielle à Pékin. Il a clairement indiqué que... Alors, qui ne dit mot qu'on sent, mais il a dit mot. Hein.
Oui, d'accord.
Il a dit mot.
N'empêche qu'au moment, de voter, il a quand même voté...
L'abstention.
Ouais. Voilà. Il n'a pas voté contre, mais il n'a pas voté pour non plus. Donc, en l'occurrence, il a plié, me semble-t-il, les droits.
Et on va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que la Chine a vraisemblablement des moyens de contourner ces nouvelles taxes douanières, c'est
Oui, vous commenciez à en parler tout à l'heure, mais en investissant massivement dans de nouvelles usines automobiles en Europe, eh bien, elle peut contourner ces taxes douanières. Le constructeur BYD a par exemple annoncé en début d'année l'ouverture de sa première usine de production de voitures dans le sud de la Hongrie. L'usine devrait être opérationnelle fin 2025 et BYD prévoit d'y fabriquer jusqu'à 300 000 véhicules. Et puis Great Wall Motors, qui est un autre constructeur chinois, est aussi lui en négociation avec Budapest pour pouvoir s'y implanter rapidement. Autre exemple en Espagne, on en parlait, le constructeur Chery s'est associé à son homologue espagnol EV Motor pour produire ses premiers véhicules électriques d'ici fin 2025. Et donc, en fabriquant des voitures sur le sol européen, la Chine s'exonère non seulement des taxes à l'importation, mais aussi des frais de transport Chine-Europe, ce qui lui permet malgré tout de rester très concurrentielle sur le marché européen. Et puis surtout, la Chine offre à ses pays hôtes des créations d'emplois non négligeables. 1250 emplois à Barcelone, des milliers en Hongrie, de quoi stimuler l'économie locale, a déclaré récemment le groupe BYD. Yves Vertoncini, est-ce qu'en surtaxant la Chine, l'Union européenne n'est pas en train de se priver de potentiels investissements dont elle a besoin dans l'industrie automobile et aussi de création d'emplois ?
Oui, mais dans les exemples que vous venez de citer, les investissements chinois se déplaçant sur notre continent, certes, ce sera peut-être toujours des véhicules chinois, en effet, mais comme quand on avait fait venir Toyota à Valenciennes, mais pour quels emplois ? Des emplois européens. Toyota, c'est en l'espèce français. Et donc, oui, il y a un arbitrage, en effet, peut-être sur les coûts. Tout à l'heure, vous l'avez signalé, on paiera sans doute des voitures électriques plus chères parce qu'elles sont produites en Europe, mais au moins... Les emplois européens ont été sauvegardés. On le voit aussi sur la batterie électrique. Il y a plein de gigafactories de batteries électriques qui sont en train de se construire en Europe.
Encore faut-il que le consommateur accepte de payer ses voitures plus chères.
Alors, en effet.
Mais François et Nicolas, en même temps, les Américains, eux, ont imposé des droits de douane à 200%. Enfin, je veux dire, ils ont fait aussi des choses. On ne peut pas nous les regarder et rester les bras croisés.
Justement, les mesures américaines sont beaucoup plus radicales que les mesures européennes. En mettant des droits à 100%, alors là, on est dans le protectionnisme pur et dur. En Europe, ce n'est pas exactement ça. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la création d'emplois en Europe, précisément, moi, je ne comprends pas tellement pourquoi un pays comme la Hongrie ou la Slovaquie se sont opposés aux droits compensateurs en question. Parce que les droits compensateurs, c'est inciter, comme vous le disiez, les entreprises chinoises à s'implanter en Europe et donc à créer des emplois. Donc, quand on regarde où ils s'implantent beaucoup en Europe centrale et orientale, en Hongrie,
la main-d'œuvre est moins chère.
En Slovaquie, pour de très bonnes raisons, parce que la main-d'œuvre n'est effectivement assez bon marché. Et donc, je ne comprends pas que ces pays s'opposent à ces taxes qui sont des incitations à l'implantation locale. Donc là, à mon avis, c'est un raisonnement de très, très court terme. Ah. Bon, la Hongrie, on sait, Orban est tout à fait copain avec Xi Jinping, voilà, ça explique. Mais ça, il y a aussi une volonté de ne pas déplaire à la Chine. Ça, à mon avis, c'est une vision très, très court-termiste. À moyen terme, ça serait des emplois créés en Hongrie.
Jean-Marc Daniel, ça va aussi avec la reconquête industrielle. C'est-à-dire que si on taxe aussi ce qu'on cherche en France, c'est récupérer des usines, c'est aussi en faire de nos propres marques. Donc, à un moment donné, c'est aussi encourager le tissu industriel en France. Si on taxe plus, on les fait chez nous.
Par rapport aux États-Unis, les États-Unis, c'est 1 000 milliards de dollars de déficit commercial. L'Europe, je rappelle, c'est 250 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement 300 milliards d'excédents. Vous n'avez pas le même rapport politique à la situation commerciale. La deuxième remarque que je ferai, c'est que ce qui est court-termiste, c'est de croire qu'on a besoin d'emplois. La population d'Italie est passée en dessous de 60 millions. La population active de la France a commencé à baisser.
Quand vous fait de la baisse de la natalité.
De la baisse de la natalité.
Et donc, on n'a plus besoin d'emploi.
Le problème de l'Europe, ça va être la capacité, effectivement, à avoir des gens à faire travailler.
Enfin, vous allez faire bondir nos politiques. On a 7,5% de chômage aujourd'hui en France.
J'entends bien, mais... Oui, oui, mais
plus encore dans d'autres catégories.
Oui, mais vous regardez.
De réindustrialisation de l'Europe.
Vous regardez, en Allemagne, on est au plein emploi parce que, et on ne trouve plus des gens pour aller travailler dans certaines usines parce que la démographie est telle que effectivement on a des générations de plus en plus creuses. Et donc l'intérêt de l'Europe, c'est d'être propriétaire des usines et pas de faire venir des usines de l'étranger, c'est d'être propriétaire des usines BYD, non pas en Hongrie,
mais
là où il y a des jeunes qui sont susceptibles de travailler. Si BYD fait une usine en Inde, on a intérêt à être associé à l'opération. Si BYD fait une usine en Hongrie, ça veut dire que dans 10, 15 ans, les Hongrois vont être obligés de payer des dividendes à BYD, et vu leur démographie... Et
aujourd'hui, il n'y a que la Chine qui a les moyens d'investir dans des usines. L'Union européenne ne le fait pas, par exemple.
L'Union européenne est l'endroit où il y a le plus d'épargne au monde. Quand vous dégagez un excédent extérieur du montant de ce que vous dégagez, ça veut dire que vous avez de l'épargne. Ce qu'on ne voit pas, c'est que dans l'Union européenne, il y a un pays qui ne dégage pas d'excédent, qui ne travaille pas assez.
Ah, vous allez dire que c'est la France. voilà, on connaît la chute. Vous voyez venir avec votre air de Ramin Agrobi.
Qui plombe l'Union européenne, c'est la France. Mais tout ne se mesure pas à l'aune de l'incompétence française.
Vous avez cité les panneaux solaires, pour prendre un autre cas très concret. Aujourd'hui, c'est un marché trusté par la Chine qui nous a complètement échappé. Si on avait mis des taxes, on aurait gardé la fabrication de ces panneaux solaires de plus en plus demandés et achetés.
Oui, bien sûr, là, il y a eu un arbitrage en faveur
du
prix plus bas et, par ailleurs, d'une transition écologique à meilleur marché et plus rapide. Les batailles se sont déplacées. J'ai parlé des batteries électriques, il y a l'éolien aussi, il y a donc les véhicules électriques. Et puis, il y a toute une autre série de sujets où, là, le match n'est pas du tout joué sur le quantique, l'intelligence artificielle. C'est là-dessus que les Européens sont en train de devoir investir davantage, alors que sur certains sujets, même s'il y a une alliance européenne sur l'industrie solaire qui a été lancée à coup de subventions, le sentiment général, c'est qu'après tout, il faut bien qu'effectivement les Chinois nous vendent des choses pour que nous, on puisse continuer à vendre
très bien
à la Chine.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.